Chapitre 30. Barpère n'est pas seulement une cité, elle est un cœur qui permet au sang catalan de circuler. Proverbe de Barpère. Cité unifiée de Nilopa. Une première salve toucha l'hélicoptère. Des lueurs vives éclaboussèrent l'obscurité. Des éléments du fuselage furent projetés à plusieurs dizaines de mètres en semant derrière eux des sillages de feu. Les drones bombardèrent la place jusqu'à ce que l'hélicoptère s'embrase et se disloque dans une formidable déflagration.
« Ça va durer encore longtemps ?»
souffla Ava, la tête enfoncée dans les épaules, les mains posées sur les oreilles. Il s'était réfugié sous le porche d'un immeuble d'où il gardait une vue d'ensemble de la place. Le souffle des explosions leur léchait le visage. L'odeur de minéral fondu et de kérosène saturait l'air et les contraignait à retenir leur souffle.
Ça dépend s'ils nous ont détectés, répondit Leif. Mais avec la chaleur dégagée par l'explosion de l'hélico, on a une petite chance de passer inaperçu.
Comme pour illustrer ses dires, les drones reprirent de l'altitude et s'évanouirent dans la nuit. Le silence retomba sur la place, à peine troublé par les grésillements des flammes léchant les débris éparpillés.
Nous voilà à pied, s'exclama Leif. À la merci des nettoyeurs.
« J'apprécie ton incurable optimisme !» lança Marlowe.
« Nous ne sommes pas encore morts !» protesta Issa. « Où pouvons-nous aller ?»
soupira Carfa.
« Il faut trouver un refuge sûr !»«
Aucun refuge n'est vraiment sûr !» intervint Ganesh. Fusils d'assaut épaulés, les six soldats surveillaient les environs avec une nervosité exacerbée par les déflagrations qui ébranlaient régulièrement la nuit.
« Que proposez-vous ? »
L'inquiétude voilait le regard habituellement dur et brillant d'Issa.
Notre seule chance serait d'identifier et d'arrêter les ombres, répondit Ganesh.
Vous en avez de bonnes. Si l'ensemble des fouineurs de Nilopa n'y sont pas parvenus, comment voulez-vous que nous ayons la moindre chance de les neutraliser?
Elles ont nécessairement une faille, comme tout organisme. À mon avis, il ne sert à rien de fuir. Les tueurs finiront tôt ou tard par nous attraper.
Issa hocha la tête après quelques instants de silence.
Admettons que vous ayez raison. Vous avez une piste pour les identifier?
Capturer un tueur pour l'interroger?
Vous avez affirmé qu'ils étaient invincibles,
objecta Leif. Peut-être qu'on y parviendrait en l'attirant et en lui tendant un piège. Leif pointa le bras sur la place.
Ces gens-là n'ont pas pour habitude de prévenir de leur visite.
Les drones leur ont probablement signalé notre présence.
Ils viendront, tôt ou tard. Il nous suffit d'organiser des tours de surveillance.
Pourquoi les ombres ne nous tuent-elles pas directement ? Lança Issa.
Nous sommes tous équipés de biopuces, après tout.
Nous n'aurons la réponse à cette question que si nous réussissons à identifier les ombres.
Est-ce qu'elles nous en laisseront le temps ?
Nous n'avons pas d'autre choix que d'essayer.
Une nouvelle explosion illumina la nuit. Les débris de l'hélico achevaient de se consumer. Le vent dispersait les colonnes de fumée noire qui montaient des foyers dispersés.
« Je ne suis pas de son avis, » déclara Marlowe. « Nous ne sommes qu'une poignée et peu armés. Je pense que le mieux est de chercher un refuge en attendant que les choses se tassent. »«
D'après vous, où serions-nous en sécurité ?» demanda Issa.
« Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de la chaîne des Pyrénées. Nous trouverons bien un endroit où nous installer. »«
Comment envisagez-vous le problème de la nourriture ?»«
Nous chasserons et pêcherons, et nous nous chaufferons l'hiver avec du bois. C'est ce que faisaient nos ancêtres, il n'y a aucune raison que nous ne réussissions pas à le faire. »
Le regard d'Issa se promena sur chacun des membres du groupe.
Quelqu'un d'autre est de cet avis ?
Plusieurs bras se levèrent. Ganesh chercha Ava du regard et lut à la fois de la confiance et de la déception dans ses yeux.
Le mieux est donc de passer au vote, reprit Issa. Nous nous conformerons à la décision de la majorité. Qui soutient la proposition de Ganesh ?
Six bras se levèrent. Celui de Ganesh, d'Ava, d'Issa, d'Anton et de deux soldats.
Qui soutient la proposition de Marlowe ?
11 bras se levèrent.
Nous décidons donc de nous réfugier dans les Pyrénées dans un premier temps. Nous aviserons par la suite.
La vision démocratique des cités s'apparentait à un leurre. On avait gardé de l'ancien temps le pire de la démocratie. On entretenait dans la population citadine
l'illusion de participation à la vie politique des cités, mais le choix des maires, s'il s'effectuait par un système d'élection universelle, était biaisé par le fait que les candidats se recrutaient dans un noyau restreint appartenant à l'élite et désireux avant tout de reconduire leurs privilèges. C'était, pour le peuple, comme si vous proposiez à un agneau le seul choix d'être dévoré par le tigre ou le lion. La démocratie n'a de sens que si elle sert réellement les intérêts de tous. Elle n'est autrement qu'un pouvoir régalien déguisé, une farce cruelle dont les dindons sont toujours les mêmes. La conservation du pouvoir accaparait à tel point les maires qu'ils étaient en réalité des proies toutes désignées pour les ennemis de l'humanité. Les manipulateurs sont les plus faciles à manipuler pour peu qu'on agite habilement le chiffon de la flatterie. Je le clame haut et fort. Si l'humanité se voit offrir une chance de repartir, elle devra tirer les leçons du passé et cesser enfin de se fourvoyer dans ses éternelles impasses. Suivant la direction de l'ouest, grâce à la boussole de l'un des soldats, ils traversèrent la cité plongée dans les ténèbres. Ganesh s'était demandé s'il devait se ranger à la décision de la majorité ou tenter sa chance en compagnie d'Ava. Puis il avait estimé qu'il était pour l'instant préférable de demeurer avec le petit groupe, tout en étant persuadé que, où qu'ils aillent, les tueurs finiraient par les retrouver. Trois soldats ouvraient la marche, trois autres la fermaient. Ils marquaient un temps d'arrêt à l'entrée de chaque nouvelle rue, pour vérifier à la lumière de la pleine lune et des étoiles qu'elle était déserte. Puis, ils la parcouraient d'un pas rapide, en longeant les façades blanches des immeubles. Dans les quartiers excentrés, les maisons individuelles flanquées de patios ou de jardinets se substituaient aux immeubles. Le silence pesait sur les environs comme une chape de plomb, à peine fissurée par les murmures des souffles d'air. Au bout de deux heures de marche, ils atteignirent les limites de la cité, identifiables à la fosse large et profonde d'où aurait dû s'élever la première barrière filtrante. Ils la franchirent par l'une des passerelles métalliques, en principe réservée aux techniciens de maintenance.
« C'est pas dangereux de traverser ?»
demanda Carfa d'une voix entrecoupée d'expirations sifflantes.
« Aucun risque, » répondit Leif. « La barrière est désactivée. Sinon, son champ magnétique à haute densité nous interdirait de passer. J'espère d'ailleurs que les autres seront également désactivés. »
Il parlait des deux autres filtres, séparés du premier par des zones tampons d'une profondeur de 500 mètres. Les soldats ordonnèrent au groupe de patienter, avant de s'engager sur le terrain vague vallonné et hérissé d'herbes rêches.
Le temps que nos détecteurs vérifient que la ceinture n'a pas été truffée de mines ou d'autres saloperies.
Deux soldats partirent en reconnaissance en pointant leurs analyseurs mobiles sur le sol. Ils disparurent dans la nuit. Puis, une vingtaine de minutes plus tard, utilisant leur système de communication interne, envoyèrent un message à leurs confrères pour signifier que la voie était libre. Ils parcoururent le terrain vague et bosselé, dont la terre sèche se désagrégeait en volutes de poussière sous les talons. Les chaussures de plusieurs femmes, peu adaptées au terrain, mais également celles de Leif, rendaient leur marche malaisée.
« Je flotte dans ces maudites godasses !» maugréa Ava. « Si seulement j'en avais trouvé à ma taille dans l'appartement !»
Elle et Ganesh marchaient un peu à l'écart des autres. « On aurait surtout dû prendre le temps de chercher à manger et à boire, » dit-il. « Sortir en pleine nuit de la cité n'était vraiment pas une bonne idée. »
Mais l'attaque des drones a foutu les jetons à tout le monde.
La peur est mauvaise, conseillère. Nous sommes plus repérables qu'un troupeau d'éléphants sur une plaine. Il aurait sûrement mieux valu tenter notre chance de notre côté.
Tu as déjà vu des éléphants ?
Il éclata de rire.
Au saut de Vincennes, comme tout le monde.
Ils atteignirent sans autre problème qu'un talon cassé la deuxième barrière filtrante, qu'ils traversèrent également en empruntant une passerelle de service.
Les systèmes filtrants de Barpère sont très différents des nôtres, déclara Leif en observant la fosse. J'aurais aimé avoir une discussion à ce sujet avec les responsables techniques de la cité.
À quoi ça t'aurait servi ?
Grogna Marlowe. Agrandir mon champ de connaissances ?
Regarde où nous ont conduit nos connaissances !
La voix de Marlowe était devenue rageuse, presque haineuse.
17 survivants perdus dans un trou du cul !
Pas facile de passer inaperçu avec un gueulard tel que vous, intervint Issa.
« Parlez moins fort !»« Et vous cessez de donner des ordres !» rétorqua Marlowe. « Vous ne représentez plus aucun pouvoir. Vous êtes logé à la même enseigne que nous. Vous n'êtes plus qu'une survivante dans un monde hostile !»
Un sourire empreint d'amertume s'afficha sur les lèvres d'Issa.
« Raison de plus pour rester calme et solidaire. »«
Mon cul !»
On crève tous de trouille et chacun d'entre nous ne pense qu'à sauver sa putain de peau. »
Les éclats de voix de Marlowe s'estompèrent en échos décroissants dans la nuit.
« Je vous pensais un peu plus... élégant, » insinua Issa.
Marlowe toisa son interlocutrice avec une provocation mêlée de dédain.
« Qu'est-ce que vous savez de moi? Vous me croyez un féodé comme vous, à ce tocard d'Alaric Brognier ?»
Le sourire d'Issa ne s'effaça pas.
« Je savais que vous étiez une taupe de Jeffrey Dobbs, que vous œuvriez pour l'avènement d'un pouvoir centralisé.
« Vous n'avez pas pu l'empêcher, » ricana Marlowe. « Nous avons réussi. Sans ces fichues ombres, ni l'opa,
les ombres avaient justement besoin d'un pouvoir centralisé, » coupa Ganesh.
« Je pense qu'elles ont elles-mêmes orchestré le coup d'État de New York. »
« Tu débloques, mon vieux !»
Les yeux de Marlowe semblaient sur le point de jaillir de leurs orbites.
« Ça revient à accuser Jeffrey Dobbs d'être lui-même une ombre !»«
Je ne le pense pas, mais d'avoir été le pantin des ombres, oui. »
L'espace de quelques secondes, Ganesh crut que son vis-à-vis allait se jeter sur lui. La colère de Marlowe tomba tout à coup à la façon d'un vent d'été.
« Tirons-nous de cet endroit de malheur, c'est pas le moment de régler des comptes !»
Les tueurs se manifestèrent alors que le petit groupe venait tout juste de franchir la dernière barrière et de s'engager sur une route en partie bitumée qui sillonnait entre les contreforts des Pyrénées. Des bruits de pas enflant peu à peu dans le lointain. Des silhouettes grises se détachant de l'obscurité. Un soldat marchant à l'arrière donna le signal d'alerte. Ils parcoururent plusieurs kilomètres à une allure soutenue, trébuchant parfois sur les cailloux, sans parvenir à semer leurs poursuivants. L'une des hôtesses abandonna ses chaussures sur la route et continua pieds nus.
« Deux d'entre nous vont rester en arrière pour essayer de les retarder !» fit l'un des soldats.
« Ça ne servira pas à grand-chose, » objecta Ganesh.
« Si on peut pas les semer ni les combattre, qu'est-ce qu'on fait ?»
lança Leif. Ganesh estima que l'opportunité se présentait d'étudier les tueurs d'un peu plus près. La fuite, il en était persuadé, était vouée à l'échec. Le scénario des ombres reposait sur la peur. Il fallait penser autrement, les prendre au dépourvu, agir d'une façon inattendue, irrationnelle. Un sentier escarpé traçait une ligne grisâtre sur le flanc d'une colline.
« Prenons ce sentier et tendons-leur une embuscade là-haut. »« Une embuscade ?»
Une moue dubitative étira les lèvres de Leif.
« À quoi bon si nos balles ne peuvent pas perforer leur armure ?»
Ganesh fouilla la nuit du regard et entrevit, entre les rochers, les silhouettes grises des tueurs.
« Si nous pouvions les attirer dans une fosse assez profonde... »«
Tu vois des fosses dans le coin ?»
Peut-être plus haut. Nous n'avons que très peu de chances, de toute façon, autant essayer.
« Je suis d'accord avec lui !» déclara Anton d'une voix forte. « On n'est pas des animaux promis à l'abattoir. Défendons-nous »
« Envoyons les plus rapides en reconnaissance, » proposa Ganesh. « Ils se chargeront de trouver une fosse qu'on puisse rapidement camoufler avec des branches. »«
Allez vous faire foutre !» glapit Marlowe. « Moi, je file tout droit !»
Torgi se rangea à ses côtés.
« Je viens avec toi !»
Les deux hôtesses et Carfa se joignirent au groupe de Marlowe. Les six soldats choisirent de rester en compagnie des autres.
« Vous êtes en minorité, » fit Issa.
« Vous devriez vous ranger à la décision de la majorité. »«
Qu'elle aille se faire foutre, la majorité !» grogna Marlowe. « On n'a pas un seul putain de flingue !»
Un soldat s'avança vers lui et lui tendit son pistolet et un chargeur de rechange. Marlowe s'en empara avec un drôle de sourire.
« Quelqu'un d'autre peut encore venir avec nous ?»
Comme personne ne bougeait, Marlowe se détourna et s'éloigna d'un pas résolu, suivi de Torgi, de Carfa et des deux hôtesses.
« Allons-y, nous n'avons plus de temps à perdre, » dit Ganesh.
Deux soldats partirent devant au pas de course, pour étudier le terrain, tandis que le reste du groupe se mettait en chemin. À la lumière de la lune, ils gravirent le sentier qui, par endroits, s'élevait en pente raide. Les quatre autres soldats couvraient les arrières. Ava et Hayat peinaient à suivre l'allure. Les flancs de la colline se hérissaient de pitons rocheux sculptés par les vents. Le martèlement des pas des poursuivants se répercutait entre les reliefs. Il y avait quelque chose d'implacable, de machinal dans leur progression. Une fois parvenus au sommet, les fuyards basculèrent dans le versant opposé sans repérer le moindre endroit propice à une embuscade. Il leur fallut arriver presque en bas pour retrouver les deux soldats envoyés en reconnaissance qui étaient revenus sur leurs pas.
« Il y a peut-être ce qu'il nous faut plus loin, » affirma l'un d'eux. « Une sorte de puits pas trop large qu'on peut recouvrir de branches. »
Ils conduisirent le groupe devant la cavité en question,
s'ouvrant à une vingtaine de mètres d'un massif rocheux. Les rayons de leurs lampes dévoilèrent des cavités lisses et suintantes, mais ne purent éclairer le fond, probablement situé à plusieurs dizaines de mètres de profondeur.
« Vous croyez vraiment qu'on peut tous les attirer là-dedans ? » demanda Issa.
« Ça dépendra de leur nombre, de leur formation, de leur capacité de détection, » répondit Ganesh. Ils commencèrent par couper des branches, des buissons proches, pour en recouvrir la cavité, pendant qu'un soldat posté sur le massif rocheux surveillait le sentier à l'aide d'une paire de jumelles à infrarouge. Il ne leur fallut que quelques minutes pour camoufler la faille d'une largeur de 3 mètres. Avec l'obscurité, l'illusion d'un sol jonché de feuilles était parfaite. Ils se juchèrent ensuite sur les rochers et attendirent. Les tueurs ne tardèrent pas à se présenter, avançant d'un pas métronomique, comme s'ils savaient que, tôt ou tard, les fuyards éprouveraient le besoin de souffler. Ganesh en dénombra 5. Leur bataillon s'était probablement scindé en 2 groupes. Il serra la main d'Ava, recroquevillée près de lui derrière un rocher. Doutant tout à coup de la pertinence de son idée, il se demanda si les exécuteurs tomberaient dans un piège aussi grossier, aussi éculé. Il se leva, comme convenu, pour attirer leur attention. Ils se déployèrent sur une ligne et continuèrent d'avancer au même rythme. Les crans de sûreté de leurs pistolets mitrailleurs cliquetèrent dans un synchronisme parfait.
Être bon et juste n'est pas une qualité ni un but, c'est l'état naturel d'un homme ordinaire. Proverbe du clan des Scorpes. Pays Orcite. Naya lâcha Yosp.
« Cours aussi vite que tu peux !» souffla-t-elle. « Et toi ?»«
Je te rejoins. J'ai un truc à faire avant. »
Le cœur serré par l'angoisse, elle attendit que le petit homme se remette à courir pour rebrousser chemin, fendant l'obscurité de plus en plus dense, brandissant son pistolet devant elle, écartant les roseaux à coups d'épaule. Ses pieds peinaient à s'arracher de la boue. Elle foula de nouveau le sable de la plage et aperçut de l'autre côté de la dernière haie de roseaux le corps allongé de 2 lunes. Elle vit également en arrière-plan les silhouettes des furtifs lancés à la poursuite des fuyards. Son sang se glaça. Elle crut que 2 lunes était mort, puis elle eut l'impression qu'il bougeait, qu'il respirait. Elle chassa énergiquement ses pensées affolées. Vivre sans 2 lunes lui semblait inconcevable. Elle déverrouilla le cran de sûreté de son pistolet, prit une profonde inspiration, sortit de l'abri de roseaux et fonça vers le corps du guérisseur. Des balles sifflèrent et soulevèrent des petites gerbes de sable autour d'elle. Elle tira une première fois au jugé, sans cesser de courir. Elle rejoignit 2 lunes en quelques secondes et se pencha sur lui. Du sang s'écoulait de ses lèvres. Ses yeux, grands ouverts, la contemplaient avec surprise et un soupçon de réprobation.
« Naya, balbutia-t-il, ne reste pas là, fuis !»
Elle se redressa et pressa une 2e fois la détente. Les furtifs s'égayèrent dans les ténèbres.
« T'es blessé où ?»«
Le dos ou la hanche. Fuis, je te dis.
Pas sans toi. Je peux plus marcher. »
Une nouvelle salve de balles crépita au-dessus d'eux.
« Essaie de te lever !» le supplia-t-elle. « Je te soutiendrai. »
« Je te retarderai, ils te prendront et te vendront. Je t'aime, 2 lunes !»«
Je t'aime aussi, Naya. Pars, s'il te plaît. Par amour pour moi. »
Elle entrevit des mouvements dans la nuit. 2 furtifs couraient à moins de 10 mètres de là. Elle tira à 2 reprises, en toucha un à en croire son gémissement étouffé, et obligea l'autre à s'aplatir sur le sable.
« Je ne pourrai pas vivre sans toi !» gémit-elle.
Il lui posa la main sur l'avant-bras.
« L'important est que tu sois en vie. »
Des larmes roulèrent sur les joues de Naya. Une colère terrible se déversa en elle et se diffusa comme un feu dans ses veines. Elle s'accroupit, glissa ses mains sous le torse et les cuisses de 2 lunes sans relâcher son arme, se releva en le soulevant du sol et, poussant un hurlement, se dirigea vers les roseaux. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour deviner que les furtifs avaient repris la poursuite et qu'ils n'allaient pas tarder à la rattraper. Elle tenta d'accélérer l'allure, mais le poids de 2 lunes lui sciait les bras et le sable s'enfonçait sous ses pieds. Elle faillit tomber à genoux, puisa dans ce qui lui restait de force pour continuer. Au moment où elle allait s'effondrer, juste avant de pénétrer dans la haie de roseaux, une ombre surgit devant elle.
« Donne-le-moi !»
Kolb. Le trappeur lui arracha 2 lunes des bras et s'enfonça aussitôt dans les roseaux.
Naya prit le temps de tirer un coup de feu en direction des furtifs avant de rattraper le trappeur. Ils pataugèrent de nouveau dans la boue, aiguillonnés par les bruits des furtifs se déployant derrière eux. Le galop des chevaux et le vacarme du marché continuaient de résonner dans l'obscurité.
« Fais attention !» grogna Kolb. « Ça s'enfonce profond !»
Ils progressèrent aussi vite que possible entre les tiges, à endroits très épais et rigides. Une ombre se dressa devant eux. Naya leva son pistolet avant de reconnaître Yosp. Un sourire illumina la face du petit homme, visiblement soulagé de les retrouver. Elle l'attrapa par le bras.
« Faut pas rester là, Yosp. Ils sont à nos trousses !»
Galvanisé, il leur emboîta le pas. Le cri d'un furtif retentit tout près d'eux. Naya se retourna pour presser la détente de son pistolet. L'éclair et la détonation déchirèrent l'obscurité. Ils tombèrent un peu plus loin sur Rodag, qui, à l'aide de sa perche, s'affairait à sortir sa femme de la mare de boue dans laquelle elle s'était enlisée. Les visages éplorés de leurs enfants flottaient comme des masques funèbres sur le fond des ténèbres. 2 mètres plus loin se tenait la femme d'une 30aine d'années, les 3 enfants et l'adolescente qu'ils avaient délivrés des furtifs. Avec un ahannement titanesque, le géant arc-bouté sur ses jambes parvint à extirper sa femme hors de la boue.
« Les heures me parlent !» brama Yosp.
« Elles te disent quoi ?»
s'impatienta Naya.
« Elles me disent que le sol veut nous avaler !»«
On peut pas retourner en arrière, on tomberait sur les furtifs !»«
Elles me disent !»
Yosp s'interrompit, comme s'il entendait réellement une voix au fond de lui.
« Elles me montrent le passage !»« Elles me disent que vous devez me suivre !»
Sans attendre la réponse des autres, le petit homme prit sur sa gauche et s'avança d'une allure résolue entre les roseaux.
« On peut lui faire confiance ?» demanda Rodag. « Il dit toujours la vérité !»
répondit Kolb qui, portant toujours de l'une, se lança sur les traces de Yosp.
« Allons-y !»
renchérit Naya.
« Les heures me disent marchez exactement là où je marche !»
ajouta le petit homme.
« Faites comme moi !»
ordonna Rodag aux enfants. La colonne se forma derrière Yosp et progressa au milieu des roseaux, en effectuant des détours parfois surprenants. Des éclats de voix derrière eux leur indiquèrent que les furtifs se rapprochaient.
« On peut pas accélérer l'allure !»
marmonna Rodag.
« Laissons à Yosp le temps de choisir les bons passages !»
murmura Naya. Les roseaux s'espaçaient peu à peu. Bien que souple, le sol du chemin suivi par Yosp supportait parfaitement leur poids. De chaque côté, s'étendaient des mares de boue menaçantes sur lesquelles se reflétait la lumière de la lune. De gros oiseaux blancs s'envolèrent dans un soudain bruissement d'ailes. Un hurlement déchira la nuit. Un poursuivant s'était probablement enlisé dans une zone mouvante. Il fut bientôt suivi d'un 2e cri, puis d'un 3e. Le piège du marécage se refermait sur les furtifs. Le silence, égratigné par les frissonnements des panaches de roseaux, enveloppa bientôt la petite troupe guidée par Yosp. Kolb se rendit compte que Delune avait perdu connaissance.
« Faudrait s'arrêter pour soigner Delune !»«
Les heures me disent, on est bientôt arrivé !»
cria Yosp. Quelques minutes plus tard, la terre redevint ferme sous leurs pieds, et ils atteignirent un plateau rocheux sur lequel ils purent enfin se reposer. Kolb allongea Delune au pied d'un rocher. Naya lui retira sa veste pour examiner sa blessure. La balle l'avait frappé en bas du dos, tout près de la colonne vertébrale. Elle nettoya à l'aide d'un bout de tissu le sang qui avait commencé à coaguler.
« Si elle lui a touché la moelle, il pourra plus marcher !»
lâcha Kolb entre ses lèvres serrées.
« Ne dis pas de bêtises !»
Delune était revenue à lui. Il s'efforça de sourire malgré la douleur qui lui crispait les traits. Une vague de joie recouvrit Naya.
« Il faut extraire la balle avec la pointe d'un couteau au préalable chauffé, »
reprit le guérisseur.
« Puis cautériser la plaie. »«
Et qui va faire un truc pareil ?»
grogna le trappeur.
« Tu sais te servir d'une lame, Kolb. Tu as l'habitude de tailler les peaux. »«
Je peux m'en charger !»
intervint la femme d'une 30aine d'années. « Je m'occupais de soigner les blessures dans mon clan. »«
D'accord. On la connaît pas !»
protesta Naya. Delune lui agrippa le poignet.
« Nous n'avons d'autre choix que de nous faire tous confiance. Merci d'être revenu sur tes pas pour me sortir de là. »
Des larmes perlèrent au coin des yeux de Naya.
« Je n'ai fait que rendre ce que je te devais. Tu as puisé la force en toi. Tu ne me devais rien. Merci à toi aussi, Kolb.
C'est elle qui a tout fait. Quand je me suis rendu compte que vous ne nous suiviez pas, j'ai rebroussé chemin. Je suis arrivé juste à point.
Il faut maintenant extraire la balle avant que la blessure s'infecte.
Ils allumèrent un feu avec les branches mortes jonchant le sol. Puis maintinrent un long moment dans les flammes la lame du couteau récupérée par Naya. Ils allongèrent ensuite de l'une le plus confortablement possible sur le ventre. Et la femme, qui s'appelait Lorena, commença à inciser la blessure avec délicatesse. Les muscles de Delune tressaillirent lorsque le fer brûlant s'enfonça dans sa chair. Un gémissement s'échappa de ses lèvres. Grâce à la précision de ses gestes, Lorena n'eut pas besoin de beaucoup de temps pour localiser et extraire la balle. Puis, elle trempa de nouveau le couteau dans le feu et appliqua la lame sur les contours de la plaie. La main de Delune serra à broyer celle de Naya.
« Voilà la fautive !»
s'exclama Lorena en montrant, à la lueur du feu, la balle luisante de sang.
« Merci !»
souffla Delune très pâle. « C'est la moindre des choses. Vous nous avez délivrés, mes enfants et moi, des trafiquants de chair humaine. Nous, du clan des Scorpes, nous sommes connus pour toujours payer nos dettes. »
De la pulpe de l'index, Lorena vérifia la chaleur de la lame du couteau avant de le refermer.
« Nous devrions peut-être repartir si nous voulons semer les furtifs, » ajouta Delune.
Naya caressa son front perlé de sueur.
« T'inquiète pas pour eux. Le marais les a avalés. On a tout notre temps. »
Certains clans demeureront à jamais dans la mémoire du pays Orsite. C'est le cas du clan des Scorpes, de l'agglomération de Vilban, réputé pour son sens de l'honneur et sa droiture morale. On venait souvent consulter les chefs Scorpes pour résoudre les litiges opposant d'autres clans ou de simples particuliers. On avait une telle confiance dans leurs paroles que leur jugement avait valeur de loi ou de traité. On parcourait parfois plusieurs centaines de kilomètres pour s'en remettre à leur sagesse. La question m'a longtemps hanté. Où peut-on puiser une telle grandeur d'âme dans un monde aussi violent, aussi haineux, aussi fourbe ? Je ne parle pas tant des anciens que des jeunes du clan, plongés en permanence dans un environnement chaotique, brutal, instable. Il fallait que le clan fasse preuve d'une cohérence morale infaillible pour que ses enfants ne soient pas contaminés par la fureur habitant les autres clans, par les guerres, les meurtres, les tortures, les vols et les autres exactions commises la plupart du temps sur les populations les plus faibles. Par quel miracle les plus belles fleurs poussent-elles sur les tas de fumier ? Faut-il donc que la grâce naisse de la corruption, comme la lumière primordiale jaillit du plus sombre des ténèbres ? J'ai habité Vilban pendant une vingtaine d'années, et grâce aux Scorpes, ce fut la plus belle période de mon existence. Je sus enfin ce qu'était un monde en paix, un monde relativement harmonieux malgré les disgrâces héritées de la Grande Guerre, toutes ces saloperies chimiques et nucléaires qui empoisonnaient la terre, l'air et l'eau. Puis un apprenti tyran décida que les Scorpes avaient suffisamment régné, qu'il était urgent d'en revenir au bon vieux temps du désordre et de la souffrance, et il leur déclara une guerre sans merci. Ainsi disparut le clan des Scorpes. Abandonnés de tous, les hommes et les vieillards furent massacrés, les femmes et les enfants vendus aux bandes errantes de trafiquants. La barbarie ordinaire revint à Vilban. Les ténèbres retombèrent sur nos têtes et, au bout de quelques semaines, je repartis pour une longue errance qui me conduisit sur les bords de la Méditerranée. Je me suis interrogé des années plus tard sur l'origine du mot Scorpe, et je n'ai trouvé qu'une racine, scorpion, sans que je parvienne à les relier d'une quelconque manière. Ils se remirent en chemin. Kolb et Rodag décidèrent de se partager la charge de Delune, toujours incapable de se tenir debout. Il fallait rapidement trouver de quoi boire et manger, plusieurs enfants se plaignant de la soif et de la faim. Ils traversèrent le plateau, barré un kilomètre plus loin par une haute muraille naturelle. Ils l'allongèrent sur environ 300 mètres et tombèrent sur une source qui jaillissait de la paroi et formait sur le sol un bassin d'une profondeur de 50 centimètres. L'eau s'en échappait et disparaissait par un orifice dans les entrailles de la terre.
« Ça me semble bien ici, » dit Kolb. « On pourra sans doute piéger des animaux assoiffés. »
Après que tous eurent bu, ils installèrent les enfants de Rodag et ceux de Lorena un peu à l'écart de la source. Jaina, l'adolescente, demeura en compagnie des adultes. Âgée d'une quinzaine d'années, fille d'une amie de Lorena, Jaina passait la nuit chez cette dernière quand les hordes coalisées contre les Scorpes
avaient enfoncé les portes et raflé tous les occupants de la maison. On les avait vendus aux furtifs, elle et les enfants, après avoir joué toute une nuit avec elles. Elles avaient ensuite marché des jours et des jours le long du fleuve Rhône. Puis, la femme de Rodag, Elvar, et ses deux enfants avaient grossi le petit groupe des captifs avant que Yosp et Kolb ne soient à leur tour capturés par les trafiquants.
« Je les ai pas entendus venir !» maugréa le trappeur. « Plus silencieux que des loups, les bougres !» J'ai reçu un coup sur le crâne et je me suis réveillé ficelé, suspendu à une branche, porté par deux hommes. J'ai découvert Yosp à mes côtés dans la même position que moi. Ils nous ont ensuite obligés à marcher. J'ai jamais pu me sauver, d'abord parce que ils m'avaient mis une corde autour du cou et que si celui qui la tenait l'avait relâchée, elle se serait serrée toute seule et m'aurait étranglé. Ensuite, parce que je voulais pas laisser Yosp tout seul. Il m'avait bien dit que vous viendriez à notre secours, mais je l'avais pas cru. Et puis voilà que vous arrivez. Foutue bonne idée d'avoir lancé ses chevaux au grand galop pour semer la panique. J'aurais vu les furtifs se sauver, pire que des moineaux.
Des bruits se firent entendre dans les buissons proches.
Ça sent le sanglier qui a soif, chuchota Kolb. Donne-moi ta pique, Rodag.
Le géant remit sa perche au trappeur.
Écartez-vous en silence, ajouta Kolb à voix basse.
Il tendit le bras.
Dans cette direction, vous serez contre le vent.
Rodag souleva deux lunes et s'éloigna dans la nuit en compagnie des autres, laissant le trappeur seul, tapis à une dizaine de mètres de la source. Le sanglier se présenta quelques minutes plus tard, un solitaire aux défenses imposantes. Kolb attendit qu'il plonge son groin dans le bassin de rétention pour s'approcher de lui. L'animal, alerté par le bruit de ses pas, se retourna, pas assez rapidement pour éviter la pointe ferrée de la perche qui s'enfonça dans son poitrail. Il poussa un rugissement terrible avant de charger le trappeur. Mais celui-ci se contenta de rester arc-bouté sur sa perche et de reculer, laissant la pointe s'enferrer de plus en plus profondément dans le corps de son adversaire. Le sanglier baissa la tête et continua l'épreuve de force jusqu'à ce que, mortellement atteint, il fléchisse soudain et s'affaisse sur le flanc. Poussant un hurlement de triomphe, Kolb attendit qu'il cesse de remuer pour se rapprocher.
« Quelqu'un a un couteau ?»
Rodag posa deux lunes sur le sol et tendit son poignard au trappeur. Kolb acheva l'animal en lui plantant la lame dans la veine jugulaire. Pendant qu'il dépeçait le sanglier, les autres se chargèrent de ramasser le bois mort pour allumer un feu.
« Y a quelqu'un que la peau intéresse ?»
demanda Kolb. Comme personne ne répondait, il l'abandonna sur le sol. Ouvrit l'animal de la gorge à l'abdomen, retira les intestins, préleva le foie, les poumons et le cœur, qu'il coupa en petits morceaux avant de les étaler sur des pierres plates.
« Il n'y a plus qu'à faire cuire !»
s'exclama-t-il. Ils mangèrent de bon appétit, hormis Delune, qui affirma qu'il valait mieux pour lui rester à jeun, jusqu'à ce que sa blessure soit cicatrisée.
« J'espère trouver dans le coin les bonnes herbes pour accélérer la guérison, » dit-il à Naya.
Tu es sûr que tu pourras remarcher ?
Les yeux de Naya luisaient d'inquiétude sous les mèches éparses de ses cheveux blancs.
Dès demain, j'espère, répondit-il avec un petit rire. Pas question, faut d'abord que tu te remettes.
Ne t'en fais pas. La balle n'a touché aucun organe essentiel.
Elle était pourtant profondément enfoncée, intervint Lorena.
Faut croire que j'ai le cuir épais.
La présence de Delune et de Naya, ainsi que son rôle essentiel de guide dans le marécage, semblait avoir rendu toute sa joie à Yosp. Son appétit également. Il dévorait à pleines dents le morceau de viande ruisselant de graisse que lui avait tendu Kolb. Le petit homme lâcha soudain sa pitance.
« Les heures me parlent !»
déclara-t-il d'un air affolé.
« Elles me disent que les hommes méchants, les hommes sans odeur, viennent vers nous et qu'ils veulent nous tuer !»«
Ça s'arrêtera jamais !» soupira Naya.